Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis l'école des hautes études en sciences sociales à Paris sur le thème de la recherche d'un ordre international durable et d'ordres régionaux viables, sujet du séminaire international organisé par la chaire de géopolitique appliquée du Collège d'études mondiales. Regard sur l'espace asiatique, ses différentes équations, un espace qui se réorganise autour d'une prégnance chinoise réaffirmée, le dossier sensible de la mer de Chine méridionale, la distanciation avec les États-Unis et les incertitudes introduites par la présidence Trump qui pose notamment la question de la valeur concrète ou réaliste de l'alliance américaine, alors que le pivot d'Obama n'a jamais vraiment totalement convaincu. Quelle place pour une Asie multipolaire face à la réaffirmation de la prégnance chinoise? Comment se situent le Japon et l'Inde dans ce contexte? Devant les incertitudes du système d'alliance américain, les propositions de Pékin, anciennes, répétées et ajustées, d'espace de paix et de prospérité, ainsi que la densification des interactions de défense, ne finissent-elles pas par produire une évolution tangible des pensées stratégiques? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Nobukata Miura, spécialiste des études françaises et francophones, professeur émérite de l'université Chuo de Tokyo, vice-président de la Fondation franco-japonaise en charge des échanges scientifiques et intellectuels entre la France et le Japon. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Inde et de l'Asie du Sud et chercheur à l'Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
Retrait américain du TPP, montée en puissance de la Chine, dossier plus que sensible de la mer de Chine méridionale, la présidence Trump et ses incertitudes. Comment les puissances que sont le Japon et l'Inde voient-elles ce qui se déroule actuellement en Asie? Quelle est la perception du Japon et de l'Inde du bouleversement stratégique en cours, en particulier le retrait des États-Unis et le grand boulevard laissé à la Chine à plusieurs niveaux, donc celui du retrait des États-Unis du TPP et de l'accord de Paris sur le climat? Qui souhaite commencer? Jean-Luc Racine.
C'est utile, je pense, de commencer sur la notion de puissance. Le débat qui court aujourd'hui, mais qui est en train de se clore, est de savoir si la Chine est encore une puissance émergente ou si elle est devenue une puissance émergée. Et de toute évidence, elle est sur la voie d'être une vraie puissance, même si un certain nombre d'analystes chinois, et même si le pouvoir chinois lui-même est très prudent dans la rhétorique qui peut être employée sur ce thème en disant « mais non, nous ne sommes pas encore une grande puissance ». S'agissant du Japon, M. Miura est mieux placé que moi pour en faire l'analyse. S'agissant de l'Inde, je pense que là, on est vraiment dans le cas d'une puissance émergente, c'est-à-dire par définition dans une phase de transition, dont l'ambition raisonnable n'est pas encore d'être une grande puissance, mais d'être prise en compte dans la redéfinition de l'ordre international. Dans le langage international de la diplomatie, anglicisé en quelque sorte, c'est de vouloir être un global player sans être encore un global power. C'est une des lignes de force de la diplomatie indienne. Sous le gouvernement actuel, comme sous les gouvernements précédents, il y a beaucoup de changements avec Narendra Modi et l'idéologie du nationalisme hindou. Il y a tout un discours qui a changé, mais il y a au moins une chose qui n'a pas changé. Deux choses même qui n'ont pas changé. D'un côté, la grande faiblesse de l'ordre régional de l'Asie du Sud, qui est une des régions les moins intégrées du monde, même si l'Association pour la coopération régionale en Asie du Sud, établie en 1985, a donc derrière elle un passé. Mais cette association régionale est complètement perturbée par la très difficile, et c'est une litote, relation indo-pakistanaise. Et puis le deuxième fondamental qui reste donc la ligne de force, le guide en fait de la diplomatie indienne, c'est nous sommes, tout ça a été défini dès les lendemains de la guerre froide, pour la multiplication des partenariats, mais non pas pour signer des alliances, et en particulier évidemment des alliances militaires. C'est ce qui explique par exemple la position de l'Inde sur la question de la mer de Chine du Sud, où l'Inde, dans les forums internationaux ou dans les forums bilatéraux, rappelle qu'elle est pour la liberté de navigation, ce qui est évidemment un signal envoyé à Pékin. Mais quand les États-Unis demandent à l'Inde si elle accepterait que certains de ses navires participent à des opérations dans la zone contestée, elle décline, alors qu'elle a, avec les États-Unis et avec le Japon, des exercices maritimes conjoints très réguliers mais elle ne tient pas à se retrouver avec, en manière d'escorte de ce qui serait une flotte américaine testant en quelque sorte la puissance de la Chine.
Alors justement, on va voir avec vous, Nobuo Katamura, quelle est la position du Japon et finalement donc la perception de Tokyo, de ce que j'évoquais en introduction, le retrait des États-Unis et ce boulevard laissé à la Chine. Et on a même évoqué la question de savoir qui était la puissance numéro 3. Est-ce que le Japon se voit comme tel à l'échelle mondiale, Nobuo Katamura?
Oui, il m'est très difficile de analyser un nouvel ordre géopolitique à l'échelle régionale, s'il en existe un qui se dessine dans notre région, suite au retrait de l'engagement américain dans ce concert qui doit exister entre les nations de l'Ivrain Pacifique. C'est très difficile parce que d'abord, la guerre froide qui a fini en Europe avec la chute de Mur en 89 subsiste encore dans l'Asie de l'Est. La Chine reste divisée en deux et la Chine communiste revendique toujours Taïwan, qu'elle ne veut absolument pas reconnaître. La péninsule coréenne aussi est divisée en deux. Elle a connu une guerre fratricide entre 1950 et 1953. Aujourd'hui, la Corée du Nord est au bord de la faillite. La multiplication des essais nucléaires ou de lancement des missiles est une expression de l'état d'extrême détresse, selon mon interprétation. Mais la réunification pacifique des deux États coréens n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ensuite, c'est très difficile d'analyser un nouvel ordre régional qui pourrait exister, qui pourrait se construire. C'est parce que il n'existe pas en Asie de l'Est l'équivalent de l'Union européenne ni le système de sécurité collective comparable à l'OTAN, fondé sur l'alliance atlantique entre l'Europe et les États-Unis. La construction européenne, commencée par le traité de Rome et confirmée par la réconciliation entre Paris et Bonn, par le traité de l'Élysée, a rendu possible d'abord l'Allemagne unie en 1990 et ensuite, plus de 10 ans plus tard, une Europe unie élargie jusqu'aux pays de l'Est, anciennement de régime communiste. Cependant, la réconciliation entre Chine et le Japon, pour le moment, dans un état extrêmement difficile. Alors, bon, j'arrête là. Et la question de la construction de l'île artificielle par la Chine dans l'océan Chine du Sud, méridional, c'est un sujet de préoccupation pour nous aussi et qui illustre bien un conflit, disons, territorial autour des îles de Senkaku, en chinois Diaoyu. Ce n'est pas un cas isolé qui menace la sécurité dans l'Asie de l'Est.
Nobuo Katamura, si je devais vous poser la question de savoir ce qui inquiète le plus le Japon aujourd'hui par rapport en particulier, alors est-ce que cette question des îles disputées entre la Chine et le Japon, est-ce que c'est le retrait américain et finalement, comment Tokyo voit-il aujourd'hui ou perçoit-il aujourd'hui son alliance avec les États-Unis?
Dans l'éventuelle hostilité qui pourrait éclater entre Chine et Japon autour du conflit de ces îles, Diaoyu ou Senkaku, jusqu'ici, Washington assure le Japon, dans cette hypothèse, que le traité d'alliance militaire entre les États-Unis et le Japon s'applique à ce cas de conflit qui opposerait Chine-Japon. Mais en réalité, les États-Unis ne veulent pas se mêler dans ces conflits régionaux, à vrai dire. Parce que ça, comment dirais-je, les Américains ne peuvent pas profiter de leur engagement dans ces conflits qui ne les concerne pas directement.
Vous écoutez RFI.
RFI. Géopolitique.
Jean-Luc Racine, en ce qui concerne l'Inde, comment précisément l'Inde voit-elle sa relation avec les États-Unis? Et est-ce que, je sais qu'il y en a quelques-unes, des initiatives communes entre l'Inde et le Japon connaissent un développement certain suite à ces incertitudes nouvellement créées et la montée en puissance de la Chine?
Oui, je crois que, en dépit de l'incertitude évidemment due à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il y a des fondamentaux qui restent en place. Et l'un des grands problèmes, c'est précisément la question de l'incertitude. Parce qu'à la limite, je ne sais même pas si on ne va pas plus vite que la musique en parlant de retrait américain en Asie. Rien ne nous empêche de penser qu'il y aura peut-être un retournement des premiers signaux envoyés par l'administration Trump s'il y avait, par exemple, un conflit particulièrement grave entre la Chine et le Japon, entre autres. Pour l'Inde, il y a eu un tournant donc après la guerre froide, mais surtout après les essais nucléaires indiens de 1998, où l'administration Clinton avait imposé des sanctions contre l'Inde, ce qui ne faisait que suivre la loi américaine. Mais cette tension avait permis de discuter et de mettre en place une nouvelle phase de l'histoire qui régularisait un peu cette espèce d'aberration où on voyait, entre guillemets, la plus grande démocratie du monde, un pays multiculturel dont les élites parlaient anglais, qui avait des relations certes suivies. Il y avait des coopérations entre l'Inde et les États-Unis pour, par exemple, lancer la révolution verte, rénovant l'agriculture. Mais évidemment, le potentiel bilatéral n'était pas là. Les choses ont changé depuis, sous la réserve que les Indiens veulent garder, autant que possible, sous ce gouvernement comme sous les précédents, ce qu'ils appellent un maximum d'autonomie stratégique. Et le maximum d'autonomie stratégique, ça signifie, bien sûr, nous pouvons être inquiets de la montée en puissance de la Chine, mais on ne va pas entrer dans une politique de suivisme vis-à-vis des États-Unis qui voudrait mener une politique d'endiguement de Pékin. Et ça, je pense que ça dit beaucoup de choses sur l'état du monde d'aujourd'hui. Quand on parle d'ordre régional ou d'ordre international. La règle aujourd'hui, qui connaît évidemment certaines exceptions, mais la règle aujourd'hui, c'est que tout le monde parle à tout le monde. Les Indiens et les Chinois ont un lourd contentieux frontalier. Les Indiens voient d'un très mauvais œil les relations entre la Chine et le Pakistan, a fortiori avec cet élément clé du corridor sino-pakistanais qui devrait renforcer l'économie pakistanaise, mais qui a un intérêt stratégique pour la Chine aussi, reliant le Xinjiang à la mer d'Arabie. Mais en même temps, les leaders indiens et chinois se rencontrent très régulièrement, soit de façon bilatérale, soit dans les sommets, en marge des sommets multilatéraux, d'une part. Et d'autre part, la Chine est derrière l'Union européenne le partenaire commercial numéro 2 de l'économie indienne. Donc là, on retrouve un des paradigmes de l'ordre d'aujourd'hui où l'affirmation des souverainetés nationales, et nous avons en Inde un gouvernement du reste comme au Japon, et c'est pour ça que l'Inde de Narendra Modi s'entend bien aussi avec le Japon de Shinzo Abe, où des nationalistes sont au pouvoir. Mais en même temps, ces souverainetés s'affirment dans des cadres où l'interdépendance est absolument reconnue. Dans ce schéma-là, l'incertitude liée à la politique américaine, évidemment, suscite des interrogations à New Delhi de deux ordres. Un, est-ce que la politique protectionniste, avec ou sans guillemets, de Trump va causer des dommages à l'économie indienne et en particulier des problèmes de visa pour les ingénieurs informaticiens qui travaillent à la Silicon Valley, entre autres. Et deux, est-ce que, cette question a déjà été posée, bien sûr, est-ce que le retrait américain, quelle que soit son ampleur, la nature ayant horreur du vide, ne signifie pas laisser des marges de manœuvre à la Chine. Oui, vu de Delhi, oui, mais parfois, et j'en termine avec cela, parfois le retrait américain peut favoriser l'Inde. Exemple, le retrait du TTP, du traité transpacifique, auquel la Chine n'était pas partie, ni l'Inde, donne un coup de pouce à l'alternative chinoise de projet qu'on appelle le RCEP, c'est-à-dire de coopération régionale, de partenariat de coopération régionale économique, dont les noyaux durs sont l'ASEAN d'un côté et la Chine de l'autre, une architecture à construire dans laquelle l'Inde a sa place, alors qu'elle ne l'avait pas dans le TTP. Donc il faut se garder des analyses simplistes. Mais pour le reste, l'Inde, évidemment, partage, comme tous les autres pays, un certain nombre d'interrogations sur ce que sera la politique américaine, y compris dans son voisinage proche. Et je pense à la question de l'Afghanistan, par exemple.
Alors, on l'a bien compris, cet effet de taquet avec des évolutions possibles sur les questions d'intégration régionale que l'on développera peut-être à nouveau dans la deuxième partie de l'émission. Dans un premier temps, je me tourne vers vous, Nobukata Miura. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le Japon est placé sous le parapluie nucléaire américain en vertu du traité de sécurité avec les États-Unis. Il débat à nouveau le Japon de sa constitution pacifique. Shinzo Abe souhaite faire évoluer l'article 9 de cette constitution. C'est un débat qui a beaucoup cours au Japon aujourd'hui. Et quelle est la position? Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour développer, mais je vous promets qu'on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. Quelle est la position de la société civile japonaise sur cette question?
Oui, en matière de la politique de défense, le Japon vit une grande contradiction entre le pacifisme absolu affiché par l'article 9 de la Constitution de 1946 et l'alliance militaire définie par le traité nippo-américain de 1951, donc qui a permis remilitarisation du Japon pour faire face au bloc communiste en Extrême-Orient, en collaboration, en coopération avec les États-Unis, notamment avec les bases militaires américaines très importantes concentrées sur l'île de Okinawa, qui est à l'égale distance du continent chinois, de Taïwan, péninsule coréenne et de Japon. Donc, bases militaires américaines sont là pour surveiller l'ensemble de la région, point de vue de sécurité. Et je vous rappelle que c'est à partir des bases de Okinawa que, au moment de la guerre de Vietnam, les chasseurs bombardiers américains sont partis de cette île de Okinawa pour bombarder le Vietnam du Nord. Donc, en résumé, le Japon est en contradiction entre l'article 9 et l'alliance militaire avec les États-Unis. Mais ce que essaye le gouvernement de Shinzo Abe est de changer l'article 9 pour, comment dirais-je, faire valoir l'alliance militaire avec les États-Unis. Mais jusqu'ici, l'article 9 a joué le rôle de garde-fou pour que le Japon ne s'engage pas dans des guerres en tandem avec, comme soutien des troupes américaines à l'extérieur. Donc, à mon avis, il faut garder cette statu quo, même si c'est contradictoire. Et aujourd'hui, avec deux tiers des sièges dans les deux chambres de la Diète japonaise, le gouvernement de Shinzo Abe a cette grande chance de pouvoir changer la constitution. Et c'est en ce moment le grand débat. Oui.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Nobukata Miura et Jean-Luc Racine dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis l'École des hautes études en sciences sociales à Paris sur le thème de la recherche d'un ordre international durable et d'ordre régionaux viables, sujet du séminaire international organisé par la chaire de géopolitique appliquée du Collège d'études mondiales. Regard sur l'espace asiatique. Nous retrouvons nos invités, Nobukata Miura, spécialiste des études françaises et francophones, professeur émérite de l'Université Chuo de Tokyo, vice-président de la Fondation franco-japonaise en charge des échanges scientifiques et intellectuels entre la France et le Japon, et Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Inde et de l'Asie du Sud et chercheur à l'Asia Centre. Nobukata Miura, on évoquait à la fin de la première partie de l'émission ce débat qui a cours au Japon de réforme de la Constitution avec une évolution possible de l'article 9 de la dite Constitution. Est-ce que d'après vous, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche peut être l'occasion pour le Japon de se tailler une plus grande autonomie dans le cadre de son alliance avec les États-Unis? D'aucuns estiment qu'il serait temps pour le Japon de cesser d'attendre que les États-Unis lui dictent sa conduite. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Comment dirais-je? Le malheur du Japon de l'après-guerre, c'est que nous n'avons pas eu un grand visionnaire comme Charles de Gaulle, capable de rétablir un État vraiment indépendant et souverain. Le Japon reste toujours un allié, mais complètement aligné à la volonté de Washington en matière de la sécurité et de la défense, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour déployer la politique de rapprochement avec ses voisins asiatiques. Donc le retrait américain déclaré par Trump pourrait donner une chance inouïe pour que le Japon puisse, comment dirais-je, donc en profitant de ce retrait, de l'absence américaine dans notre région, pour s'affirmer plus volontairement, d'une manière plus autonome, sa stratégie d'indépendance. Il faut savoir profiter de la situation. Oui.
Jean-Luc Racine, en mai dernier, il y a donc quelques semaines, le président chinois, parlant de la Belt and Road Initiative, donc c'est l'initiative de la route de la soie, il en parlait comme d'un projet pour créer une grande famille sur fond de coexistence harmonieuse. Est-ce que la Chine est vue comme sincère à propos de son désir d'harmonie régionale? Et est-ce que finalement tout cela ne vient pas en contradiction avec la course aux armements qui prévaut aujourd'hui en Asie, Jean-Luc Racine?
En principe, il pourrait ne pas y avoir de contradiction entre les deux. Si on accepte le principe que les affirmations de souveraineté nationale, voire nationaliste, jouent aussi dans un contexte d'interdépendance. Mais c'est vrai qu'il y a une course aux armements, bien que chacun s'en défende, dans le triangle des puissances nucléaires asiatiques. Hein, il y a une course aux armements entre le Pakistan et l'Inde, et il y a une course aux armements qui ne dit pas son nom, moins aiguisée peut-être, mais existant, entre l'Inde et la Chine, puisque dans sa stratégie de jeu de guerre, en quelque sorte, l'hypothèse, c'est d'être à même de mener un combat sur deux fronts, front pakistanais et front chinois. Ça explique que l'Inde, en dépit de son image démocratico-gandhienne, soit depuis plusieurs années le principal importateur mondial d'armes au monde et essaie de développer au maximum son industrie de défense. En même temps, les stratégies des routes de la soie, la route transcontinentale menant vers la Russie et l'Europe d'un côté et la route maritime allant de la Méditerranée au Pacifique via l'océan Indien, donc là ça concerne évidemment l'Inde au premier chef, cette grande stratégie, évidemment, il est tout à fait logique d'entendre le discours de Pékin sur la nécessité que finalement tout le monde bénéficie de ces investissements pharaoniques. Ceci étant, il y a forcément un écho avec ce qu'a été affirmé de longue date comme une stratégie indienne, mais c'est resté largement au niveau des paroles et non pas des actes, qui était de l'absolue nécessité de renforcer les connectivités. pour l'Inde, il y a un vrai problème, c'est que le Pakistan empêche toute connectivité terrestre entre l'Inde, l'Afghanistan et l'Asie centrale. Ce qui explique d'ailleurs l'accord entre Inde, Iran et Afghanistan pour une voie maritime allant de l'Inde au port iranien, mais financé par l'Inde, de Chabahar, pour remonter après par le rail et la route vers le cœur de l'Afghanistan. Mais de façon plus symptomatique en quelque sorte, et je laisse de côté les initiatives vers l'Asie du Sud-Est, où il y a des initiatives qui sont les pays autour du golfe du Bengale d'un côté, et de l'autre côté, un projet BCIM, c'est-à-dire Birmanie, Inde, Chine, Bangladesh, Chine, Inde, Myanmar, les initiales ne correspondent pas à la ligne géographique de cet axe, qui est intéressant parce que là, les deux bouts de la chaîne sont l'un chinois, l'autre indien, mais ça n'avance pas beaucoup. Le fait le plus significatif qui s'est produit récemment, ça a été la décision indienne de boycotter en mai la grande réunion sur ces routes de la soie organisée par le président Xi Jinping à Pékin. Même ceux qui avaient des doutes, que ce soit les Américains ou les Japonais, ont envoyé des représentants qui n'étaient pas au plus haut niveau, mais étaient présents, l'Inde a tout boycotté. Pourquoi a-t-elle tout boycotté ? Elle a tout boycotté parce que le corridor donc sino-pakistanais, qui est un projet ambitieux, 40 à 50 milliards de dollars si vraiment il se concrétise, passe par le nord du Cachemire, tenu par le Pakistan et contesté par l'Inde. Alors là, on a un vrai problème d'interprétation de décisions géopolitiques. Il y a une petite guéguerre idéologique qui joue très régulièrement. Tout ça est très codé entre l'Inde et la Chine. L'Inde proteste quand il se passe quelque chose dans les terres revendiquées par l'Inde et tenues par le Pakistan. La Chine proteste quand le Dalai Lama, voire quand un premier ministre indien va dans l'État indien d'Arunachal Pradesh, à l'est de l'Himalaya, qui est revendiqué par Pékin. Mais tout ça, ça fait partie d'un jeu qui est très codé. Là, boycotté, alors que la Chine avait lancé une invitation spécifique, la Chine avait dit « nous pourrions changer le vocabulaire si ça vous gêne pour le Pakistan », mais je pense que ça fait partie du jeu d'affirmation des puissances. Ça ne remet pas en cause, à mon sens, la relation sino-pakistanaise, ça ne fait que confirmer la complexité de ces relations, où c'est pas seulement du donnant-donnant, c'est aussi... Et ça, c'est dit très formellement dans les déclarations bilatérales ou par tel ou tel ambassadeur de l'une ou l'autre partie. Nous avons des différends, mais on entend deux discours. Un, il y a de la place pour tout le monde, c'est-à-dire un, des Chines peuvent se développer en parallèle. Et deux, nous avons suffisamment de choses en commun, nous, Inde et Chine, pour continuer à avoir une relation bénéfique. Mais il est sûr qu'en termes de signal... on a eu là une manière de crispation nationaliste de l'Inde, qui fait d'ailleurs objet de débats en Inde, puisque l'Inde est une société de débat, où un certain nombre d'observateurs ou d'économistes disent « mais est-ce que New Delhi, là, n'a pas fait une erreur ? Mais si New Delhi a fait une erreur, ça sera facile de la réparer dans les mois ou dans les années qui viennent. » Mais on peut noter que sur la carte des routes de la soie qui circulent de longue date, la première ayant été évidemment une carte chinoise en chinois, il y a le port de Calcutta qui figure dessus, et cette carte continue de circuler, alors que Calcutta n'est pas un port des routes de la soie. La route de la soie chinoise en océan Indien, c'est Pakistan, Bangladesh, Birmanie, Sri Lanka. Mais l'Inde, pour le moment, s'abstrait de ce qui est présenté comme étant finalement le grand chantier pharaonique eurasiatique et même plus, puisque la route maritime de la soie va vers la côte orientale de l'Afrique, sur laquelle l'Inde a des intérêts. Et là, on voit bien que le jeu des ordres régionaux, c'est pas simplement les pays eux-mêmes, c'est aussi la totalité de l'océan Indien. Et c'est la satisfaction indienne d'avoir vu apparaître en Australie ce concept d'Indo-Pacifique qui légitime en quelque sorte que, de la même façon que la Chine a des intérêts dans l'océan Indien, l'Inde peut avoir des intérêts, a des intérêts dans l'océan Pacifique. Mais évidemment, encore faut-il avoir les moyens pour faire avancer ses intérêts.
Alors, Nobukatamura, moi, je me tourne vers vous pour connaître la position japonaise face à ce que j'évoquais précédemment, l'expression par la Chine de son désir d'harmonie régionale. Tokyo voit cela comme un propos de sincérité. Enfin, comment est-ce que le Japon perçoit-il ?
Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible, d'imaginer une communauté d'intérêt à l'échelle régionale dans notre région. Mmh. Parce que les acteurs dans notre région ont de tailles différentes, régimes politiques différents et états de démocratie très différents. Oui. Et donc, j'imagine deux options un peu extrêmes, surréalistes. D'un côté, si l'intégration régionale est possible, ce serait par l'initiative chinoise, c'est-à-dire ordre impérial asiatique sous la hégémonie chinoise, avec tous les pays limitrophes qui se contentent de leur statut tributaire. Deuxième hypothèse, c'est un ordre régional vraiment harmonieux et équilibré, englobant l'ensemble des pays de la région, et sur le principe de égalité et de coopération. Mais pour le moment, il n'y a pas de structure multilatérale de dialogue pour arriver à cette intégration régionale pacifique et bien harmonieuse. Donc là, si le projet avance, ce sera entre ces deux options, mais ce sera très très difficile. Et un mot, si vous me permettez, j'ai parlé de différence de l'état de démocratie dans différents pays de notre région. Et pour nous, la démocratie se définit comme un régime qui est fondé sur le respect des droits de l'homme. Et il y a donc le principe de pluralité dans la vie politique, assisté par les activités de la société civile. Et pour assurer cette démocratie, il faut bien établir la division des pouvoirs, pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Et avec le quatrième pouvoir, c'est médias. Le rôle des médias est très important maintenant. Donc, il faut absolument sauvegarder la liberté d'expression. Et nous, au Japon, nous luttons contre la droitisation du gouvernement de Shinzo Abe pour défendre cette démocratie au sens, disons, digne de terme. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est la situation de la démocratie en Chine. Mais je ne dis pas davantage. Hein.
On entendait bien que c'était un message que vous adressiez particulièrement à Pékin. Jean-Luc Racine, un commentaire sur ce que vient de dire Nobukatamura, et en particulier sur l'absence de communauté d'intérêt possible dans la région.
Il y a un ancien ministre des Affaires étrangères indien qui se trouvait encore pour quelques semaines le président de la République. Mais c'est un poste genre 4e République française, mais un des hommes majeurs du parti du Congrès, qui avait théorisé dans les années 90 ce qui allait se passer après la guerre froide, en déclarant ceci: il est temps de sortir du concept westphalien de l'équilibre des puissances pour négocier un équilibre des intérêts. Je crois qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui joue sur les deux plans. Il y a bien une quête d'un équilibre des puissances qui ne va pas jusqu'à définir une architecture régionale ou macro-régionale asiatique de sécurité. Nous en sommes bien d'accord. Ce n'est le cas ni en Asie-Pacifique, ni en Asie du Sud. Le seul exemple, avec éventuellement un point d'interrogation, c'est l'Asie centrale, avec l'Organisation de coopération de Shanghai, mais c'est sous le patronage sino-russe. Je note au passage que cette organisation vient de faire entrer comme membre plein à la fois l'Inde et le Pakistan. Pour le reste, je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, et là les États-Unis n'auront guère leur mot à dire là-dessus, quelle que soit l'évolution politique de Donald Trump, c'est cette recherche conjointe d'affirmation de soi pour défendre à la fois des conceptions propres de ce que sont les régimes nationaux, place de la démocratie, c'est quoi la démocratie, est-ce que la démocratie c'est uniquement la définition occidentale de la démocratie ou est-ce que ça veut dire autre chose, d'une part, et d'autre part, la question des intérêts, puisqu'on sait bien que au-delà des visions nationalistes qui s'affirment, Russie, Chine, Japon, Inde aujourd'hui.
Surenchère des nationalismes.
Au-delà de cela, qui dans tous les cas de figure se retournent vers l'histoire, réécrivent le passé, la nation indienne pour les nationalistes hindous, elle existe depuis 5000 ans, pas depuis le 19e siècle et la lutte contre les Britanniques. Mais derrière cela, un des vecteurs majeurs de la définition des politiques étrangères, ce sont les intérêts économiques. Et je pense que la définition de ce qu'est la montée en puissance de la Chine aujourd'hui joue précisément sur ces trois tableaux. L'affirmation de soi nationaliste, la redéfinition du passé en voulant tourner la page de ce qu'ont été les siècles de domination ou le siècle de domination occidentale, et en même temps la lutte pour les intérêts économiques. Avec évidemment comme question qu'est-ce qui se passe à l'échelle du monde dans cette lutte pour des intérêts économiques. J'entends par là qu'est-ce qui dépend des stratégies étatiques et qu'est-ce qui dépend des stratégies des grands acteurs privés économiques. Quel est le rôle des multinationales? Quel est le rôle des multinationales pour définir via les pouvoirs politiques ce que sont leurs intérêts? Tout cela joue. Mais tout cela ne suffit évidemment pas à contribuer à l'émergence d'un ordre asiatique, voire d'ordre régionaux. Et évidemment, l'Inde et l'Asie du Sud, c'est un exemple patent de l'échec d'une tentative d'un ordre régional stable. Et en même temps, on reste, me semble-t-il, dans des marges d'équilibre, s'agissant en tout cas de l'Asie au-delà de ce qu'on appelle, nous, le Moyen-Orient et que les Indiens appellent l'Asie occidentale. Côté Asie du Sud, Asie centrale, Chine, Asie Pacifique, on est quand même dans un monde où on prend garde à ne pas aller trop loin, où on sait comment s'envoyer des signaux pour montrer « nous avons telle revendication, nous avons telle ambition », mais en même temps, le dialogue reste de mise.
C'est peut-être la conclusion pour cette émission sur l'Asie. J'allais vous poser la question de savoir s'il y avait risque de conflit. Ce que j'entends de ce que vous venez de dire, Jean-Luc Racine, c'est qu'il y a une vraie volonté de faire en sorte que les intérêts de chacun, finalement, permettent, alors pas un statu quo, mais parce qu'ils sont évolutifs, mais en tout cas une situation qui tendra à être préservée dans un certain pacifisme.
Oui, je pense que c'est la montée en puissance des forces armées ou la course aux armements n'est pas contradictoire avec cette volonté d'équilibre. Enfin, c'est le vieux principe, tu veux la paix, prépare la guerre, pour le dire en français.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Nobukata Miura, spécialiste des études françaises et francophones, professeur émérite de l'université Chuo de Tokyo, vice-président de la Fondation franco-japonaise en charge des échanges scientifiques et intellectuels entre la France et le Japon. Merci aussi à Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Inde et de l'Asie du Sud et chercheur à l'Asia Centre. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Marc Fichet, Lou Bachelier-Legras et Nathalie Laporte. À très bientôt.